Bonjour mes chers auditeurs et chères auditrices. Aujourd'hui, nous continuons notre série d'émissions La Bonne Nouvelle aux Musulmans. Et nous allons parler de près de la prière chrétienne et du Notre Père. Je vous souhaite non des objections à formuler, des questions à poser. N'hésitez pas à nous écrire à radio-silence@wanadoo.fr. Nous vous répondrons dans le plus bref délai. La prière chrétienne est tout au début de notre série d'émissions. Nous avons déjà parlé de la prière en général et de la grande différence entre la prière chrétienne et la prière musulmane en particulier. Récapitulons seulement que la prière est, d'après le catéchisme de l'Église catholique, l'élévation de l'âme vers Dieu ou la demande faite à Dieu des biens conformes à sa volonté. Elle est toujours un don de Dieu qui vient à la rencontre de l'homme. La prière chrétienne est une relation personnelle vivante des enfants de Dieu avec leur Père infiniment bon, avec son Fils Jésus-Christ et avec le Saint-Esprit qui habite en leur cœur. Même après la chute, l'homme continue d'être capable de reconnaître son Créateur, gardant en lui le désir de celui qu'il appelait à l'existence. Or, toutes les religions témoignent de ce désir de Dieu chez l'homme. Mais c'est Dieu le premier qui attire inlassablement chaque personne à la rencontre mystérieuse de la prière. Voilà la grande différence avec les autres religions. Ce n'est pas l'homme qui a, pour ainsi dire, trouvé Dieu et qui veut se le rendre propice, mais c'est Dieu qui va à l'encontre de l'homme et qui s'est révélé pleinement en Jésus-Christ, son Fils unique, comme nous lisons dans le prologue de l'Épître aux Hébreux. Après avoir à maintes reprises et sous maintes formes parlé jadis au Père par les prophètes, Dieu en ces jours nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par qui aussi il a fait les siècles. Cela veut dire le monde. C'est une expression hébraïque. Et continuons. Donc, le Fils, il est resplendissement de sa gloire, effigie de sa substance. Rappelons que nous professons dans le symbole de la foi Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu. Donc, ce Fils qui soutient l'univers par sa parole puissante, ayant accompli la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté dans les hauteurs. La prière de l'homme est donc une réponse à l'appel de Dieu qu'il ressent au plus profond de lui-même. Or, en Jésus-Christ, le Père s'est pleinement révélé, et le Christ nous révèle l'essence la plus profonde de Dieu, à savoir celle qui est amour. C'est pourquoi nous croyons que le Christ est la dernière révélation de Dieu et qu'avec lui, la révélation de Dieu est terminée. Et par quel signe Jésus prouve-t-il qu'il est Dieu? Eh bien, par sa prédication, par tous les miracles et surtout par sa résurrection. C'est par sa résurrection qu'il se révèle comme le Seigneur de la vie qui triomphe de la mort. Je vous rappelle ici tout ce que nous avons dit au sujet du linceul de Turin. Or, si nous regardons de près la vie de Jésus, nous constatons que les évangiles montrent souvent Jésus en prière. Il se retire dans la solitude même la nuit. Il prie avant tout moment décisif de sa mission. Toute sa vie est prière, parce qu'il est en constante communion d'amour avec son Père. Jésus prie même durant sa passion, implorant le pardon pour ses bourreaux, ce qui ne va pas du tout de soi, car dans l'Ancien Testament, il n'était même pas courant parmi les pieux d'intercéder les uns pour les autres. L'intercession chez les Israélites était une affaire de prophète ou d'homme de Dieu. Puis l'action de grâce et les louanges avaient une place primordiale dans l'oraison de Jésus. Jésus remercie son Père même lors d'un apparent échec, lorsqu'il se voit repoussé par les siens et qu'il lance à l'adresse des habitants incrédules « Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïde !» Alors il loue le Père par ses paroles. « Je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents et de l'avoir révélé aux tout-petits. Oui, Père, car tel a été ton bon plaisir. Tout m'a été remis par mon Père, et nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le révéler. » C'est pourquoi les apôtres ont demandé à Jésus de leur enseigner à prier. Mais Jésus ne nous enseigne pas seulement le contenu de la prière, mais aussi comment il faut prier. Rappelons qu'il n'est pas forcément nécessaire de pratiquer quelques gestes rituels ni de verser un flot de paroles. Ce n'est pas ça qui compte, mais la pureté du cœur qui cherche le royaume et qui pardonne à ses ennemis. De plus, il faut avoir une confiance audacieuse et filiale qui va au-delà de ce que nous ressentons et comprenons, et la vigilance qui protège le disciple de la tentation. Comment l'Esprit-Saint intervient-il dans la prière de l'Église? L'Esprit-Saint est le maître intérieur de la prière chrétienne. Il forme l'Église à la vie de prière et il la fait entrer toujours plus profondément dans la contemplation et dans l'union avec l'insondable mystère du Christ. Les formes de prière, telles que les révèlent les écrits apostoliques et canoniques, resteront normatives pour la prière chrétienne. Quelles sont les formes essentielles de la prière chrétienne? Ce sont la bénédiction et l'adoration, la prière de demande et d'intercession, l'action de grâce et la louange. L'Eucharistie contient et exprime toutes les formes de prière. Quels sont les moments les plus indiqués pour la prière? Tout d'abord, il faut bien retenir que tous les moments sont favorables à la prière. Mais l'Église propose aux fidèles des rythmes destinés à nourrir la prière continuelle. Prière du matin, du soir, avant et après le repas, liturgie des heures, au moins l'Eucharistie dominicale si c'est possible quotidienne, chapelet, fête de l'année liturgique. Prier est toujours possible. Prière et vie chrétienne sont donc inséparables. Rappelons ce que saint Jean Chrysostome dit au sujet de la prière. Il est possible, même au marché ou dans une promenade solitaire, de faire une fréquente et fervente prière. Assis dans votre boutique, soit en train d'acheter ou de vendre, ou même de faire la cuisine. Or, retenons bien qu'il n'y a pas de lieu ni de moment où je ne pourrais pas prier. Toute notre vie devrait être prière. Après ce bref aperçu sur la prière chrétienne, regardons de près la prière du Seigneur, le Notre Père, c'est-à-dire les paroles de prière que Jésus a enseignées lui-même à ses apôtres. Je vais vous lire le texte d'abord. Notre Père, qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumettez pas à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Dans les évangiles, nous trouvons deux versions du Notre Père, à savoir dans Luc et dans Matthieu. Cependant, la tradition liturgique a toujours utilisé le texte de Matthieu. D'après Tertullien, ce grand théologien et père de l'Église d'origine berbère, le Notre Père est le résumé de tout l'Évangile. Saint Thomas d'Aquin qualifie le Notre Père comme la plus parfaite des prières. Alors, au centre du sermon sur la montagne, Jésus nous enseigne une prière qui reprend le contenu essentiel de l'Évangile. Quand est-ce que l'Église récite le Notre Père ? Déjà au baptême et à la confirmation, on récite le Notre Père pour manifester la nouvelle naissance à la vie divine des fils de Dieu. Durant la Sainte Messe, le Notre Père se place après la doxologie. Ça, c'est les paroles « par lui, avec lui et en lui ». « À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. » Ces paroles se situent à la fin de la prière eucharistique et avant l'Agnus Dei. Dans tous les chapelets et dans la liturgie des heures, on récite le Notre Père. Déjà les premiers chrétiens étaient tenus de réciter le Notre Père 3 fois par jour, comme nous lisons dans la Didache ou Doctrine des Apôtres, un des plus anciens documents du christianisme primitif. Or, ce qui est surprenant chez Jésus, c'est qu'il utilise sa langue maternelle, l'araméen, pour prier. Il a donc prononcé le Notre Père en araméen et non pas en hébreu, la langue du culte. Il commence la prière par dire « Abba », ce qui veut dire « papa » en araméen. Il place ainsi la prière au niveau du quotidien pour nous dire qu'il ne faut ni façon guindée ni esprit d'esclave pour s'adresser à Dieu, mais une relation filiale pleine de tendresse. Du temps de Jésus, c'était quelque chose de tout à fait nouveau et d'inouï. Ce qui nous surprend aussi, c'est que le Notre Père se compose de plusieurs demandes conformément à l'exhortation de Jésus. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. De plus, ce qui frappe aussi, c'est que Jésus ne recommande pas d'interminables prières, car à l'époque on pensait se rendre Dieu ainsi propice. Mais la prière des disciples doit être brève, car le Père sait ce dont nous avons besoin. La seule condition pour être exaucée, c'est une attitude de réconciliation avec ceux qui nous ont offensés. Nous en parlerons encore en détail. La prière du Seigneur est ainsi une catéchèse de prière et considérée comme telle dès les débuts du christianisme. Si nous regardons de près la structure de notre Père, nous constatons ceci. Jésus s'adresse d'abord au Père, puis suivent 7 demandes à Dieu le Père, à savoir 3 demandes qui s'adressent directement à Dieu le Père, les 4 dernières demandes présentent au Père de miséricorde nos misères et attentes. Elles lui demandent notre nourriture quotidienne, le pardon et le secours dans les tentations et la délivrance du malin. Le Notre Père est donc composé de 2 grands volets, comparables aux tables de la loi ou aux 2 grands commandements qui concernent Dieu et le prochain. Regardons de près le titre et les 2 premières demandes. Pourquoi pouvons-nous oser dire « Notre Père » L'Église primitive a toujours été consciente du grand privilège de pouvoir appeler Dieu Père ou Papa. Un père ne se scandalise pas des paroles maladroites de son enfant, mais il le regarde plein d'amour et l'enfant n'a pas peur de s'adresser à son père parce qu'il se sent aimé et enveloppé de son amour. Quand nous employons l'expression filiale de Jésus « Abba », nous comprenons que Jésus nous a élevés au rang d'enfants de Dieu. Nous sommes aussi des fils et des filles de Dieu, comme le souligne l'épître aux Romains. Aussi bien n'avez-vous pas reçu un esprit d'esclave pour retomber dans la crainte. Vous avez reçu un esprit de fils adoptif qui nous fait nous écrier « Abba, Père ». Notre exprime une relation complètement nouvelle avec Dieu, car nous adorons Dieu le Père avec le Fils et le Saint-Esprit. Nous sommes donc entrés dans cette dynamique d'amour intertrinitaire d'une part, d'autre part l'Église du Christ et la communion d'une multitude de frères et de sœurs. Mais dire « notre Père », cela signifie aussi de prier pour tous les hommes, afin qu'ils connaissent le seul et vrai Dieu et qu'ils soient rassemblés dans l'unité. Que signifie « qui êtes aux cieux » ? Cette expression biblique signifie que Dieu est au-delà et au-dessus de tout. Elle désigne la majesté, la sainteté de Dieu et aussi sa présence dans le cœur des justes. Le ciel constitue donc notre vraie patrie. Que veut dire que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne ? Ces deux demandes proviennent de la liturgie juive, à savoir du kadis. Cela vient de kadosh, ce qui veut dire saint en hébreu et en araméen. Cette prière terminait l'office synagogal et Jésus l'a récitée depuis son enfance. Le kadis est une des rares prières araméennes du judaïsme de l'Antiquité. On l'a récité après le sermon tenu en araméen. Le kadis est une prière eschatologique qui implore la venue du règne de Dieu. Or, sanctifier le nom de Dieu, c'est avant tout une louange qui reconnaît Dieu comme le Saint, le Très-Haut. Le nom est synonyme de Dieu, parce que les Israélites n'avaient pas le droit de prononcer le mot Dieu. Il le paraphrasait par d'autres concepts, tels que Adonai, Seigneur, ou très haut. Puisque nous sommes consacrés à Dieu dès le baptême, nous aussi, nous sommes appelés à la sanctification. Par ces paroles, nous demandons que par notre vie et notre prière, le vrai Dieu trinitaire soit connu et béni par tout homme du monde entier. Il va de soi que prononcer le nom de Dieu dans une malédiction ou dans un juron constitue un horrible blasphème. Que veut dire que votre règne vienne ? Par cette demande, nous exprimons notre désir brûlant de la venue finale du royaume de Dieu par le retour du Christ dans sa gloire. Car il n'y a pas d'autre paix que celle dans le Christ, le prince de la paix. Et tant que les cœurs ne se tourneront pas vers le vrai Dieu, le monde ne trouvera pas de paix. Comme le monde actuel est sous le règne de Satan, on a l'impression que le mal triomphe. Or, c'est du fond de leur détresse que les Juifs imploraient la venue du royaume de Dieu, où la sainteté de Dieu triompherait et où le monde entier reconnaîtrait la sainteté de Dieu. Cette demande est aussi le cri de l'esprit dans le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, le Maranatha, « Viens Seigneur Jésus ». Or, il semble que la communauté juive et les disciples de Jésus emploient les mêmes mots pour implorer la venue du royaume de Dieu. Mais la grande différence avec le kadis réside dans le fait qu'en récitant le Notre Père, les croyants savent que le royaume de Dieu a déjà commencé à germer parmi les hommes. Attention, cette demande que ton règne vienne ne signifie ni un royaume politique, ni un gouvernement théocratique, mais ce royaume est purement spirituel. Toute tentative d'ériger une théocratie politique est une méprise totale de cette prière eschatologique. Que signifie que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel? Quelle est la volonté de Dieu? Sommes-nous seulement capables de le reconnaître? Ou sommes-nous aveuglément exposés à son vouloir arbitraire? Or, dans la première épître à Timothée, chapitre 2, verset 3, nous lisons que la volonté de Dieu est que tous les hommes soient sauvés. Rappelons ici que Dieu ne crée ni des hommes pour l'enfer, ni prédestine qui que ce soit pour l'enfer. Croire cela est un grave outrage à l'amour de Dieu. Nous en avons déjà parlé à plusieurs reprises. Alors c'est pourquoi Jésus est venu pour accomplir la volonté du Père. Lisons dans Saint Jean. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé de mener son œuvre à bonne fin. Ou chez Saint Matthieu. À l'heure de l'agonie à Gethsémani. Abba, tout est possible. Éloigne de moi cette coupe. Pourtant, pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Ou relisez dans Saint Jean, chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Qui croit en lui n'est pas jugé. Qui ne croit pas est déjà jugé. Et saint Paul de nous expliciter le plan divin du salut et la volonté de Dieu dans son épître aux Éphésiens. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis par toutes sortes de bénédictions spirituelles aux cieux dans le Christ. C'est ainsi qu'il nous a élus en lui dès avant la fondation du monde, pour être saints et immaculés en sa présence dans l'amour, déterminant d'avance que nous serions pour lui des fils adoptifs par Jésus-Christ. Tel fut le bon plaisir de sa volonté, à la louange de gloire de sa grâce, dont il nous a gratifiés dans le bien-aimé. En lui, nous trouvons la rédemption par son sang, la rémission des fautes, selon la richesse de sa grâce, qu'il nous a prodiguée en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, ce dessein bienveillant qu'il avait formé en lui par avance, pour le réaliser quand les temps seraient accomplis. Ramener toutes choses sous un seul chef, le Christ, les êtres célestes comme les terrestres. Prions Dieu le Père pour que nous puissions accomplir sa volonté en unissant notre volonté à celle de son Fils, à l'exemple de la Sainte Vierge et des saints. Et puisque les anges et tous les saints au ciel accomplissent continuellement la volonté de Dieu, prions pour que sa sainte volonté soit aussi accomplie sur la terre. Comment est-ce que je peux reconnaître la volonté de Dieu pour moi concrètement? Il n'y a qu'un moyen, à savoir celui de la prière, surtout celle de l'adoration, pour discerner la volonté de Dieu et pour obtenir la constance pour l'accomplir, et la méditation. Donc, méditez sur la charte de Jésus, les Béatitudes, et relisez le chapitre 5 de saint Matthieu en entier. Terminons cette leçon par la lecture des Béatitudes. Heureux ceux qui ont une âme de pauvre, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, car ils posséderont la terre. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les affamés et assoiffés de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux les persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous quand on vous insultera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement contre vous toutes sortes d'infamies à cause de moi. Soyez dans la joie et l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. C'est bien ainsi qu'on a persécuté les prophètes, vos devanciers. Mes chers auditeurs et auditrices, nous arrivons ici à la fin de notre réflexion sur la prière en général et le Notre Père en particulier. La prochaine fois, nous allons regarder de près les quatre autres demandes qui concernent la communauté chrétienne et nos relations avec notre prochain. Pour aujourd'hui, je vous remercie de votre attention et je vous dis au revoir, votre Véronique.